BFM Business. 15h30, 16h. USA Today. Antoine Larigauderi.
Soyez bienvenus pour cette nouvelle édition de USA Today, votre demi-heure en connexion complète avec Wall Street, avec l'ouverture des indices américains. Vous le voyez, moins d'une minute avant que la cloche ne retentisse sur le floor du New York Stock Exchange. Même chose du côté du Nasdaq. Et puis, évidemment, on va regarder ce que ça donne à l'ouverture pour les grands indices américains avec nos spécialistes qui seront évidemment avec nous à bord de cette édition. John Plassard, Cité Gestion. Vous avez l'habitude. On sera aujourd'hui avec Frédéric Rosier de Mirabeau et Marc Templeman de CashBee pour communiquer sur cette actualité américaine, évidemment dominée en majeure partie par les trimestriels d'Nvidia. Nvidia, ce sera le gros morceau du jour, bien entendu, avec des réactions à ces résultats qui se sont passés évidemment hier après la clôture à Wall Street hier soir. Il y a eu des réactions assez volatiles vu que le titre a commencé en forte baisse avant de redécoller et d'être toujours très très bien orienté à quelques secondes de l'ouverture. Voilà, ça y est, l'ouverture à Wall Street, c'est maintenant, avec des indices américains qui s'activent un petit peu. Alors on va voir si Nvidia a un effet positif vu que le titre était quand même attendu il y a encore quelques secondes en forte hausse. On a un S&P 500 qui grimpe de 0,36%, moins 0,11% pour le Dow Jones et plus 0,87% pour le Nasdaq, 26 361 points. A priori, l'accueil est bon, hein. On va détailler tout ça. Il y a d'autres grands titres à la une de ce USA Today. Il y a d'autres entreprises qui publient leur trimestriel et en particulier Salesforce, CRM. Une vraie référence, hein, en matière de commerce et de gestion des flux commerciaux. Est-ce que enfin Salesforce a réussi à trouver la formule secrète qui va lui permettre de raccrocher avec la vague IA qu'il a jusqu'ici pourtant dont il a pourtant largement pâti, hein, ces dernières années. Donc on va voir tout ça, on va détailler tout ça avec nos invités USA Today. C'est parti.
USA Today sur BFM Business.
Bonjour John Plassard, Cité Gestion.
Bonjour cher Antoine.
Alors, évidemment, Nvidia, le gros morceau du jour. Cherche la cotation, là, pour l'instant, je la trouve pas parce que j'ai fait un trop gros zoom sur mon écran. Mais ça a l'air de bien se passer pour Nvidia sur les premières minutes de cotation après des trimestriels éclatants, oui, plus 6,3%. 13,40$, donc l'accueil est très très bon. On pourrait dire, sur les derniers trimestriels qui sont parus, on avait des chiffres tout aussi impressionnants et pourtant chaque fois ça a plutôt été vendu ou ça a plutôt pas fait grand chose. Là, on peut dire qu'Nvidia semble avoir marqué un point important. Alors c'est toujours très difficile de déterminer les fondamentaux et les réactions de marché. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, John, autour de cette publication d'Nvidia?
D'abord, rappelez ce que vous avez dit qui était très intéressant, c'est que juste après la publication, vous avez eu des algorithmes qui se sont un peu emballés parce que la marge brute qui était attendue à 75%, eh bien, est dans une fourchette en 73,5 et 74,5. Donc, c'était un peu moins bien qu'attendu sur les marges. Donc, le titre a baissé immédiatement. Mais après, bien évidemment, les chiffres sont absolument extraordinaires. On a des résultats qui confirment que la demande dans l'intelligence artificielle ne ralentit pas. On a quand même un chiffre d'affaires de plus de 96 milliards de dollars, alors qu'on attendait 92. On a 89 milliards de dollars dans les data centers, un bénéfice ajusté nettement au-dessus des attentes, 2,22 $ par action. Et puis, le véritable accélérateur d'hier soir, ce qui explique la hausse aujourd'hui de plus de 6%, eh bien, c'est que Nvidia anticipe une croissance du chiffre d'affaires de 70% sur l'exercice fiscal 2028, pas 2027, on est déjà 2028. Ouais, c'est ça. Normalement, ça devient fou parce que normalement, on parlait d'une année en avance. Là, on parle de 2028 et on est ici dans un consensus qui s'était positionné plus ou moins sur 45%. Et là, Nvidia nous dit non, ce sera 70%. Donc, il y a une demande, il y a une accélération de la demande. Il y a évidemment la puce Blackwell, il y a Vera Rubin qui fonctionne très, très bien. Et cerise sur le gâteau, en fallait-il un, eh bien, tous ces chiffres n'intègrent pas les revenus des data centers compute qui viennent de Chine. Donc, les chiffres ne sont même pas dedans. Donc, vous comprenez ici qu'il aurait été très difficile de sanctionner ces résultats et ces prévisions, surtout avec l'utilisation des nouvelles puces, parce que là, à un moment ou à un autre, on dirait qu'il y a vraiment un problème quelque part qu'on n'a pas vu.
Bon, et puis, autre bonne nouvelle hein, autour d'NVIDIA, il lance visiblement une offre de rachat pour Hugging Face. Alors, Hugging Face, c'est une plateforme de gestion d'intelligence artificielle open source. Il y en aurait pour 13 milliards de dollars et ce serait la deuxième fois qu'il lance une offre après une première tentative il y a quelques mois, qui était pour moitié moins. Hein, donc, on peut dire que la valorisation s'est envolée. Est-ce que vous avez un sentiment, un détail ou quelque chose qui vous fait penser que cette information est importante concernant Hugging Face?
C'est l'opportunité. Si vous prenez pas l'opportunité avec des résultats comme vous avez eu hier, même de surpayer, comme on dit dans le jargon, eh bien, vous le faites pas du tout. Et c'est l'opportunité qui était là. Alors, bien évidemment, ils connaissaient leurs résultats avant la publication. C'est pour ça qu'ils ont lancé le raid. Juste une dernière chose, si vous me permettez, Antoine, qui est assez intéressant parce que vous savez qu'on parle souvent des chiffres absolument extraordinaires. On vient d'en parler ici. Mais je vais regarder un peu plus en détail. Et en fait, ils ont des créances avec des clients de 63 milliards de dollars. Donc, vous imaginez bien que lorsque vos clients vous doivent 63 milliards de dollars, eh bien, vous êtes dans une situation un petit peu compliquée. Mais pour NVIDIA, évidemment, on lui pardonne tout. Et puis, des délais de paiement qui seraient passés de 45 à 60 jours. Alors, évidemment, sur des niveaux pareils, sur des montants pareils, ça fait beaucoup, 15 jours. Nous, ça nous fait peut-être un peu sourire. Mais on voit ici que, on en parlait hier soir, hein, on avait cette émission extraordinaire sur NVIDIA, ensemble avec Guillaume, où on parlait de cette économie circulaire dont on a parlé souvent. Eh bien, c'est un peu la preuve par A plus B.
Oui, quand on doit des sous à quelqu'un dont on a des parts de capital ou chez qui on investit, c'est effectivement pas la même chose. Mes invités, Frédéric Rosier, Mirabeau, Marc Templeman, Cashby, merci d'être là en direct. Marc Templeman, qu'est-ce que vous évoquez ces résultats d'NVIDIA? On pose la question évidemment à chaque fois. C'est des chiffres stratosphériques, c'est des taux de progression absolument spectaculaires. Parallèlement, on sait pas trop où on va globalement dans le domaine de l'intelligence artificielle et les grands architectes que sont Sam Altman ou le PDG d'Anthropic nous le disent à longueur de journée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait dire cette fois c'est différent?
Alors non, j'ai pas la boule de cristal.
Non,
ce que je dirais, c'est que Nvidia reste évidemment une référence de marché pour tout le secteur de l'IA, mais que de plus en plus d'intervenants sont devenus beaucoup plus sélectifs dans la façon dont ils jugent et ils évaluent ce secteur. Donc le fait que Nvidia publie en effet des chiffres stratosphériques bien au-delà des attentes a évidemment un impact direct sur le titre lui-même, mais n'a pas nécessairement le même impact sur la totalité du secteur, parce qu'on se rend bien compte que parmi des acteurs, il y a ceux qui en bénéficient véritablement, Nvidia en fait sans doute partie, et d'autres dont on doit encore, enfin qui doivent encore prouver que l'IA va délivrer les résultats attendus en termes de gains de productivité, etc., etc. Première observation. Deuxième observation, j'ai quand même noté aussi que Michael Burry, très connu grâce au Big Short, qui avait prédit et qui avait misé sur l'effondrement du marché du crédit, notamment du crédit hypothécaire aux US en 2007-2008, parmi ses plus grands shorts, Nvidia figure et il a augmenté sa position. Donc c'est quelqu'un qui n'y croit absolument pas. Pour l'instant, il a tort. Je pense que sa position lui coûte de l'argent. Mais c'est quand même intéressant aussi de le noter que malgré l'engouement que le marché peut avoir pour ce titre de référence, il reste encore ici ou là des acteurs qui prennent l'autre côté du pari et qui exprime des doutes. Et la raison pour laquelle on peut avoir, même si c'est compliqué, hein, parce que l'histoire était quand même très belle, ce qui a été annoncé hier, la raison pour laquelle on pourrait avoir quelques doutes quand même, c'est il y a deux, trois éléments. Le premier, c'est qu'effectivement, le free cash flow, enfin le cash flow dont a bénéficié Nvidia est en baisse parce que les délais de paiement augmentent, et que, contrairement aux années précédentes, Nvidia, pour financer sa croissance, fait appel de plus en plus souvent à de la dette, et que donc son endettement reste encore parfaitement maîtrisé et maîtrisable, mais son endettement commence à augmenter. Mais j'ai du mal, malgré tout, à me dire que l'histoire n'est pas très belle.
Ouais, j'ai lu quelque part, je ne sais plus qui disait, la machine à cash d'NVIDIA est en train de s'arrêter. Bon,
ça va aller.
Voilà, reste un peu de marge quand même. Frédéric Rosier, alors ces chiffres d'NVIDIA, vous les avez regardés
Alors, Ça vous dit quoi ?
Nvidia, c'est nous, on sait très bien, c'est pas le sujet. Nvidia, c'est le côté consanguinité des investissements aujourd'hui, qui est le peut-être la faiblesse peut-être du système. Lorsqu'on voit un petit peu ce qu'a annoncé Nvidia dans les carnets de commandes, on parle de 2 trillions de dollars de carnets de commandes des hyperscalers globalement. Là, on a encore une commande d'Nvidia de 2 millions de GPU pour AWS. Donc, on voit qu'il y a c'est une accélération. Il y a Vera Rubin, par exemple, qui arrive. Vera Rubin, c'est 2 fois la capacité en termes de revenus que ce que faisait proposer Blackwell, et, qui est récent. Hein, je veux dire, l'accélération. Il faut juste se rappeler un truc parce que c'est. Je pense qu'on perd un peu la notion du temps et de l'évolution d'Nvidia pour parler de la partie historique. Nvidia, il y a 4 ans ou 5 ans, c'était la même époque, c'était 6 milliards de revenus. On est sur une accélération sans précédent. Et ce qu'a pas souligné John, je crois que Wang a dit d'ailleurs dans ses perspectives de croissance que ça pourrait être même du 100%. C'est plutôt une problématique aujourd'hui de pression sur l'offre, pas sur la demande. Et aussi, on le sait, la problématique de la mémoire, puisqu'il y a une tension absolument hallucinante aujourd'hui pour la plupart des fournisseurs de mémoire. Et on voit que ça réagit en termes d'augmentation de production, de pouvoir intégrer ces fameuses mémoires dans les GPU d'NVIDIA.
Oui, parce que ce n'est pas le tout d'alimenter quelque chose qui va vraiment essaimer partout dans le monde. C'est que ces composants de mémoire et ces cartes graphiques d'NVIDIA, ça va être aussi compliqué. Il va falloir faire la queue pour avoir la sienne. Comme un sac Hermès, quoi.
Et alors que dans le même temps, ce qu'on appelle le prix du token, la tokenisation,
c'est encore un autre truc.
Voilà, en chute libre. Et on voit là récemment encore, il y a eu des lancements d'IA chinoise qui propose aujourd'hui des tokens qui sont à peu près 100 fois moins chers que ceux proposés par des Anthropic et autres. Donc on voit qu'il y a quand même une décélération. Alors après, la décélération du prix va augmenter naturellement le volume, donc on va avoir une compensation par les volumes. Mais on voit aussi qu'on est parti aussi dans une guerre et il y aura peut-être des perdants, et dans les perdants, peut-être des clients de Nvidia qui ne pourront pas honorer ces commandes.
John Plassard, Cité Gestion, moi j'aimerais qu'on passe direct à. Pour moi, c'est l'info du jour. C'est Salesforce. Salesforce qui est sur une hausse spectaculaire. Le titre gagne 16,2%, 238,88 €. Ça fait des années que Salesforce court après les tendances pour essayer de faire de la performance en bourse et ça marche pas. Là, ils viennent d'annoncer premièrement qu'ils embrassaient la vague IA, mais de manière extrêmement active. Ils lancent même un truc qui s'appelle CloudForce, et qui est une sorte d'union entre le CRM, donc la norme sur laquelle travaille Salesforce, et Claude, le logiciel d'Anthropic. Est-ce que ce marketing, ainsi que cette stratégie, est en train enfin de parler au marché ?
Alors, oui, complètement. Il faut juste se remettre 3 mois, voire 4 mois, avant, début d'année, on disait à un moment, vous l'avez très justement dit en introduction, on disait que l'intelligence artificielle allait cannibaliser, allait manger tous les softwares. Software inclus, qui était Salesforce. Vous aviez des personnes, des ingénieurs qui venaient sur CNBC et qui vous montraient par A plus B qu'en 12 heures, ils pouvaient reconstituer Salesforce chez eux, dans le garage. Donc, on était dans une situation absolument incroyable où il y avait eu de la pression très forte sur le titre et aussi sur d'autres comme Microsoft qui font des choses complètement différentes. Et là, évidemment, il y a eu un changement radical, notamment dans le marketing des entreprises. Et c'était de dire, écoutez, l'intelligence artificielle, elle ne nous attaque pas parce que nous utilisons aussi l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on a la preuve par A plus B que effectivement l'intelligence artificielle utilisée, et je fais exprès de le dire, avec intelligence par ces entreprises de software, ça commence à marcher. Vous avez parlé d'une des IA qui est utilisée par Salesforce, il y a AgentForce et Data 360 qui sont proches des 4 milliards de dollars de revenus récurrents annuels. C'est plus de 200% sur un an. Et donc, on commence à voir ce fameux retour sur investissement. Et en plus, les investisseurs et les analystes commence à comprendre que certaines entreprises, dont Salesforce, qui a tellement souffert, Aujourd'hui, elle commence à regagner des parts de marché grâce à l'intelligence artificielle. Et le message, il est extraordinaire parce que vous allez avoir, vous l'avez eu un petit peu hein, déjà, mais ce qu'on appelle un re-rating de ces entreprises dans les softwares qui eh bien, vont avoir une vision différente de la part des analystes. On a aussi une croissance qui commence à réaccélérer commercialement. Et donc, on voit ici que c'est gagnant. Mais il a fallu passer par cette force qui a peut-être poussé les entreprises des softwares à utiliser beaucoup plus l'intelligence artificielle pour aller plus loin. Donc, moi, je trouve ça extraordinaire.
Marc, Frédéric, il y a quelque chose d'assez exemplaire. On a vu dans les résultats des entreprises ESN, les trimestriels qui ont été publiés en cours d'été, que ce soit les Capgemini, les Soprasteria, les Alten, etc., des chiffres qui montraient et qui disaient au marché, il n'y a pas de SaaSpocalypse, l'IA ne va pas nous exploser, ne va pas nous détruire, au contraire, elle a besoin de nous. Et regardez notre carnet de commandes. Notre carnet de commandes, il est comme ça. Il est en train de repartir. L'IA en soi-même ne sert à rien. C'est pas notre concurrent. Elle va travailler avec nous. Et est-ce que c'est pas ce que Salesforce est en train de montrer, alors à une échelle macroéconomique, mais voilà, en train de symboliser le fait que le logiciel a toute sa place dans cet écosystème et va se compléter avec l'intelligence artificielle.
J'allais rebondir justement sur la remarque qui a été faite sur les softwares pour justement inclure aussi les boîtes de ouais. conseils ouais. Parce que c'est les deux secteurs qui clairement ont pâti de cette bah image oui. qu'on s'est projeté peut-être collectivement pour dire que l'IA allait remplacer tout le monde. Oui. Force est de constater que c'est absolument pas le cas. Et je pense que autant on peut mentionner le rebond de 16% de l'action Salesforce ce matin, autant on peut pointer du doigt la très forte baisse et probablement la survente de ce type de titre qui a précédé. Et ça dénote finalement, quelque chose un phénomène qu'on connaît bien, qui concerne le marché américain, mais qui concerne les autres marchés également, c'est souvent drivé par le sentiment.
Ouais, c'est ça.
Et pas nécessairement la rationalité. Donc là, il y a une hausse de 16%, mais qui doit faire suite à une baisse sur quelques années qui est phénoménale.
Mais on est à moins 22% depuis le 1er janvier.
C'est ça.
Même score sur 5 ans. C'est vous dire si le titre faisait rien. Et là, ça se réveille enfin. Donc, c'est vrai que symboliquement, il se passe peut-être.
Et donc, ça prouve que on peut continuer à militer ouais. pour la lecture des résultats, la lecture des commentaires des dirigeants, qui eux, effectivement, ça fait des trimestres qui disent non, l'IA, c'est pas un concurrent, c'est un outil qui va nous permettre d'être plus efficace. Est-ce que ça sera vrai pour tout le monde? Là, pour le coup, je n'en sais rien. Il y a certains acteurs qui seront sans doute gagnants, d'autres qui en souffriront, je pense.
Frédéric Rosier.
Alors que le numéro 1 de l'intelligence artificielle, c'est lié avec le numéro 1 du CRM, ça fait une bombe atomique en termes de commercial, de force commerciale. Ça, donc, ouais. Là, on l'a vu déjà. Cette alliance CloudForce aujourd'hui, ça va être lancé, c'est dès septembre. Je veux dire, la rapidité de l'annonce et du déploiement, Salesforce nous annonce quoi? C'est que tout ce qui est agent a augmenté quasiment de 70% d'un ouais. trimestre sur l'autre. Donc, on voit bien pour toute entreprise intelligente, pour le coup, qui sait utiliser la base de CRM qu'elle a, qui est propriétaire, avec une intelligence artificielle, mais la capacité de déploiement commercial que vous avez, c'est-à-dire que vous êtes capable d'anticiper les demandes, ce qu'avait développé d'ailleurs Amazon à un moment donné, d'anticiper même oui. la demande du client final
auprès du grand public parvienne. C'était assez fou.
Donc aujourd'hui, avec ça, on a une force... Oui, c'est un changement, on va dire, de comment commercer, comment prospecter derrière. Donc, Salesforce nous annonce effectivement une croissance. Le bénéfice, c'est plus 24%. C'est des chiffres qui sont assez étonnants. On avait parlé de ça avec SAP aussi.
Tout à fait.
C'est l'histoire. Ouais. C'est une croissance à deux chiffres. Le marché n'en veut pas. Il a du mal à comprendre que ces entreprises sont liées. Et d'ailleurs, Salesforce annonce que 9 des 10 agents, en tout cas sociétés d'intelligence artificielle, utilisent la base CRM Salesforce. Donc, il y a une interaction entre les deux sociétés qui est relativement forte, en tout cas des deux univers qui est relativement forte. Et je pense aujourd'hui, effectivement, que c'est un re-rating global. Et on le voit aussi dans la cybersécurité avec CrowdStrike aujourd'hui. On voit bien que l'intelligence artificielle, c'est beaucoup d'opportunités qu'on n'a pas forcément valorisées à sa juste valeur aujourd'hui.
Marrant que vous parliez d'SAP, parce que c'est vrai que ce soit Salesforce ou SAP du côté du logiciel, c'est... c'est quand même des boîtes qui ont inventé une norme de travail.
Oui.
Et ça, vous ajoutez l'intelligence
artificielle. Une entreprise, ouais. C'est de la data propriétaire. C'est vous n'allez pas mettre dans l'intelligence artificielle de la data propriétaire comme ça avec un agent qui va travailler pour vous. Non, voilà. On l'a tous, on travaille dans des établissements financiers, on doit protéger nos data. Et comme on doit protéger nos data, en gardant ces solutions internes,
absolument.
Avec bien sûr une intelligence artificielle qui vient dynamiser tout ça.
John, on va continuer à parler tech parce qu'il y a des nouvelles du côté de Meta aussi, hein, hier, qui s'est engagé à payer jusqu'à 18 milliards de dollars. Alors, ça se passe sur plusieurs années pour régler tous les procès qu'il accuse d'avoir rendu les enfants un petit peu accros aux réseaux sociaux. Bon, vu le... quand même, 18 milliards, c'est pas rien. C'est un précédent. Maintenant, comment on fait respecter ça?
Ouais, c'est la question. D'abord, juste à rappeler une chose, ils vont devoir payer tout de suite 12 milliards de dollars, et puis ça peut, vous l'avez dit, monter jusqu'à 18 milliards. Juste rappeler une chose, ça représente 1% de la capitalisation boursière de l'entreprise, et moins que les plus de 18 milliards de bénéfices qu'ils ont réalisés au dernier trimestre. Donc c'est pour eux, avec tous les guillemets que ça comporte, c'est pas énorme, c'est pas un game changer comme on dit, mais évidemment, ça va mettre un précédent juridique ici, parce que on règle une chose avec 47 États américains et surtout sur la création d'une dépendance chez les mineurs. Alors, on va aussi avoir un sujet qui va être développé parce que on va avoir TikTok, Snap, YouTube, Facebook, c'est pas les seuls à avoir ces réseaux considérés comme rendant les jeunes accros. Et vous l'avez dit, la question, c'est de savoir comment est-ce que exactement on va pouvoir faire régner ça. Comment est-ce qu'on va pouvoir checker que des enfants ou des adolescents utilisent ces réseaux seulement à partir de 18 ans ou à partir de 16 ans. Bon, là, vous avez des pare-feux que vous pouvez faire, respecter ou pas, c'est une autre chose. Mais après, la question, qui devient très compliqué, c'est de savoir à quel moment votre réseau social est considéré comme vous rendant accro. Est-ce que lorsqu'on regarde une série sur Netflix, est-ce qu'on est accro? Est-ce qu'on regarde des shorts? Est-ce qu'on est accro? Etc. Donc vous avez vraiment un débat presque philosophique aux États-Unis et dans les autres pays sur le respect de l'âge, oui, ça c'est théorique, mais aussi sur le respect de la dépendance à à un réseau social. Et ça c'est totalement nouveau, bien évidemment. On l'avait pas il y a 10 ans, on l'avait pas il y a 20 ans, bien évidemment. Et donc on est dans ce débat-là. Et ça va être très compliqué parce que on est dans une situation où vous avez d'autres pays que les États-Unis qui vont commencer à attaquer les réseaux sociaux. On a déjà vu ça un peu partout, notamment en Australie. Mais maintenant, le respect de ces nouvelles règles, si je peux dire, c'est très compliqué.
Bon, Mark Templeman, ça vous évoque quoi?
Très, très rapidement, moi, ça me rappelle les grands procès contre les tabagistes. Qui ont pendant des années se sont défendus pour dire que non, c'est pas le tabac qui crée le cancer.
Non.
Et au moment où ça devient inévitable de reconnaître une évidence, on settle, on trouve un deal. Pour rappel, je crois que l'amende proposée initialement, c'était de l'ordre de 200 milliards de dollars.
Ouais.
Ils s'en sortent avec 18. Et encore une fois, 18 qui seront peut-être à verser sur une durée assez longue. Le cours de bourse a monté derrière. Mmh. Je crois que c'est assez clair. Ils ont bien joué la carte de l'actionnaire. Ensuite, est-ce qu'ils ont vraiment réglé le problème? Je pense pas.
C'est comme dans New York District, là, l'assistant du procureur. Et c'est un cadeau.
Voilà.
Voilà. Donc là, c'est un cadeau et ils s'en sortent plutôt bien. On va parler macro un petit peu. Il nous reste 5 minutes. John, on parle beaucoup de la baisse de l'inflation. Il y a un truc sur lequel les compteurs se sont tous affolés depuis hier, ce sont les prix du blé. L'inflation alimentaire, là, elle reste là. On est sur un plus haut depuis 3 ans, ces cours du blé. Qu'est-ce qu'il faut en penser?
La première des choses, c'est que, vous savez, lorsqu'on parle d'inflation, on peut parler de l'inflation globale. On avait le PCE qu'on a commenté cette semaine, ou le CPI, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, qui a baissé. Mais donc, l'inflation globale, on peut dire, elle peut ralentir. Mais de l'autre côté, certains prix, notamment essentiels, on parle là du blé, sont en train de repartir fortement en hausse. Et on est en train de se rendre compte que des producteurs, des fournisseurs, comme la Russie et l'Ukraine, bien évidemment, eh bien, ils sont en guerre ensemble, ils sont toujours en guerre, et eux représentent quand même plus d'un quart des exportations mondiales de blé, et ils ne vont pas pouvoir exporter autant que les autres années. On parle pour ces derniers mois, eh bien, d'une division par deux de l'offre. Donc, si on a moins d'offres, eh bien, on a les prix qui montent. Et ça, c'est très important parce qu'on parle, vous savez, on parle souvent de la composition de l'inflation, notamment aux États-Unis, où plus de 45% de l'inflation, ben, c'est dû au prix de l'immobilier, que ce soit les locations, les ventes, etc., etc. Mais on parle pas du blé. On parle pas du panier de la ménagère parce qu'en définitive, c'est ça, du panier des Américains, puis des Européens. Et là, il est très important de remettre en avant ce qui est en train de se passer sur les produits agricoles parce que la majeure partie sont en train de monter. Vous l'avez dit, depuis 3 ans, on n'avait pas vu ce genre de niveau et ça continue de monter parce qu'effectivement, on n'a pas assez d'offres. Et ça, c'est vraiment très, très important à suivre parce que si vous avez des prix dans les magasins qui montent, eh bien, vous allez acheter moins d'autres choses.
Oui, puis il faut pas oublier, c'est tout le débat sur l'inflation en ce moment. C'est pas parce que l'inflation ralentit que les prix, au contraire, les prix continuent de grimper. Et si on regarde bien l'inflation alimentaire, elle doit toucher les 30% sur les dernières années. Donc ça reste quand même considérable. Cette inflation alimentaire, alors c'est vrai qu'on a un contexte géopolitique compliqué. On a aussi des agriculteurs qui vont être soumis à une très forte pression autour des engrais et de toutes ces problématiques-là, des Détroit d'Hormuz, etc. Bon, on sent que les prix alimentaires sont pas prêts de se calmer, Frédéric Rosier.
Alors, je vais juste minorer une petite chose, puisque l'ONU fait un index d'ailleurs des produits alimentaires.
Ouais.
Et que la réalité
qui est plutôt fiable d'ailleurs.
Hein ?
Qui est plutôt fiable,
oui,
d'ailleurs.
Alors, par exemple, typiquement, les céréales, c'est un panier de céréales dans lequel, par exemple, on parle pas, mais le maïs a beaucoup plus progressé que
sans
le blé.
Doute, ouais,
et alors il y a une facteur, donc il y a bien sûr ce qui s'est passé à Odessa, toute la chaîne d'approvisionnement, de transport des céréales en Russie et en Ukraine, mais il y a aussi la hausse du pétrole. Pourquoi? Parce que les céréales sont utilisées pour la fabrication d'éthanol. Et quand vous avez les prix du pétrole qui augmentent, la transformation du maïs ou du blé en produit pétrolier, entre guillemets, ou substitut du pétrole, est relativement important. Alors, sur cet indice agricole, la viande a baissé.
Ouais.
On a eu les produits laitiers qui ont ouais. baissé. Le riz a baissé. Par contre, on a l'huile de colza qui a fortement augmenté, le blé et le maïs. Et
c'est clair, c'est les éthanols.
Oui, exactement. Ouais. Donc, si on regarde vraiment sur la totalité, et là, attention, c'est peut-être le coût de la transformation et du transport qu'il faudra regarder plus près.
Ouais.
Lorsqu'on regarde un peu cet indice, il progresse de 1,5 sur un an, c'est pas énorme. Mais avec des grosses disparités, que je répète, avec des fortes baisses, notamment sur quasiment l'intégralité de la viande, que ça soit poulet, porc et bœuf. Mais par contre, une forte hausse, notamment dans la sphère céréalière due au pétrole.
Mark Templeman, une réaction à cette inflation alimentaire dont on voit vraiment l'indicateur avec cette très forte hausse des prix du blé aux États-Unis.
Pour moi, il y a deux aspects. Le premier, c'est l'aspect politique. Trump ne sera pas content de constater que dans les magasins, les prix du pain et autres aliments de base augmentent.
Et les œufs, il a fait toute sa campagne sur les œufs quand même.
Il sait très bien que pour les midterms, ce qui compte, c'est comme toujours, it's the economy stupid. Si les gens, les votants, se sentent menacés et perdent en pouvoir d'achat, ou en tout cas ont l'impression de perdre en pouvoir d'achat, c'est pas bon pour lui en tant qu'homme politique. Pour la Fed, je pense que la discussion est tout autre. J'ai dit je pense parce qu'il y a un nouveau gouverneur, il y a un nouveau président de la Fed qui est beaucoup moins loquace et dont on ne connaît pas très bien les priorités et surtout les indicateurs qu'il regarde particulièrement. Mmh. Il se trouve que jusqu'alors, la Fed regardait l'inflation au total, mais surtout l'inflation sous-jacente, qui exclut le prix de l'énergie et le prix des aliments,
précisément,
qui sont justement connus pour être très volatiles. Et quand on exclut l'aliment et le coût de l'énergie, alors vous me direz, c'est un gros morceau du panier du consommateur, ben là, pour le coup, l'inflation est plus haute que les 2% visés, mais elle n'est pas drastiquement plus haute. Et donc, moi, je pense que pour la politique monétaire, il ne faut pas en tirer trop de conclusions. Mmh. En revanche, pour le panier du consommateur, oui, ça a un impact, et donc ça pourrait avoir un impact politique.
Mark Templeman, Cashby, Frédéric Rosier, Mirabeau et bien sûr John Plassard. Cité Gestion, merci d'avoir été avec nous pour commenter cette ouverture de Wall Street, l'actualité des marchés américains. On jette juste un dernier petit coup d'œil sur le titre Nvidia qui gagne 6,4%. L'autre grosse valeur du jour, Salesforce, le CRM qui arrive à surfer sur la vague de l'IA, cette fois bel et bien plus 15,5% pour le titre Salesforce. Et du côté des indices américains, on a plutôt bien commencé la séance avec le Dow Jones et le Nasdaq dans le vert, et une cote qui est stimulée par ces bonnes annonces, notamment en provenance d'Nvidia. Et on y reviendra bien entendu dans quelques instants dans BFM Bourse, et je serai aux côtés de Guillaume Sommerer. À tout de suite.
USA Today sur BFM Business.